Agriculteur, 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 agriculteur.
Voici Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Une émission réalisée et présentée par Martine Calcinotto sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Les paysans sont les premiers gestionnaires des milieux humides et en conséquence, ils sont aussi les gardiens et les garants de la biodiversité qui y vit et de la qualité de l'eau. Les zones humides sont des zones à enjeu et sont aussi l'occasion, tous les ans, d'organiser l'opération Fréquence Grenouille qui a lieu du 1er mars au 30 mai. Lors de cette opération, les conservatoires d'espaces naturels et leurs partenaires en France métropolitaine et outre-mer organisent plusieurs centaines de manifestations en faveur de la préservation de ces zones humides. J'ai moi-même assisté à une réunion-conférence où un animateur de conservatoire d'espaces naturels a pu nous donner plus d'explications.
C'est une opération qui se déroule sur 3 mois, qui est lancée surtout par les réserves naturelles et par les conservatoires. Par département, se l'approprie un petit peu. Donc nous, on a décidé cette année de sensibiliser un peu à la préservation des amphibiens. Alors pourquoi les amphibiens? Ce sont des animaux qui sont assez méconnus en fait. Et c'est un peu un prétexte pour parler de quelque chose de beaucoup plus important, qui est la préservation des zones humides. Des changements climatiques, des périodes, des cycles saisonniers qui varient énormément. Donc c'est l'occasion aussi de parler de... On a organisé ça en partenariat avec la Fédé de chasse. On travaille depuis pas mal de temps avec eux, notamment sur un projet de restauration de mares. C'est un site sur lequel on a fait des inventaires d'amphibiens l'année dernière et où il y a des choses assez intéressantes. J'espère que le climat sera favorable pour qu'on puisse les voir et les entendre. Donc je ne sais pas, Jean-François, si tu veux dire un mot sur le site.
Donc c'est une petite propriété de 25 hectares qui a été achetée donc, par la Fédération des chasseurs il y a 6 ou 7 ans et qui est à but pédagogique, donc, où beaucoup d'animations écoles et de centres aérés sont faites tout au long de l'année. Voilà, donc c'est vraiment un sentier où on a essayé de garder tous les milieux un peu typiques, où on a recréé tout ce qui est planté. De haies et des aménagements pour montrer aux enfants à la fois la faune et la flore locale.
Je ne marquerai pas trop de temps d'arrêt en extérieur, on essaiera de bouger, d'observer, de manipuler un petit peu, parce que les amphibiens, je vous expliquerai, ce sont des animaux qui sont protégés par la loi et on n'a pas le droit de les toucher, de les transporter. Et pour ça, il faut une autorisation. Donc voilà, ce sont des espèces fragiles, les amphibiens, donc je verrai pourquoi. Et donc je vais vous parler des amphibiens, vous allez voir un petit peu... Les espèces qu'on a sur notre territoire. Amphibien, en fait, ça vient du grec amphi, qui veut dire des deux côtés. Et effectivement, les amphibiens, ils ont à la fois une vie sur Terre. Vous aviez déjà entendu ce mot-là, les enfants, ou pas? Amphibien. Ça vous dit quelque chose ou pas? À l'école,
oui.
Quand on te dit amphibien, tu penses à quoi?
Aux animaux.
Amphibien, c'est tout ce qui est grenouille, crapaud, triton, tout ça. Amphibien, ils ont une double vie, parce qu'ils vivent sur Terre et dans l'eau. Donc, ils ont... deux phases aquatiques. À ce stade, ils ne vivent exclusivement que dans l'eau. Et vous avez, au stade adulte, quand ils sont grands, vous voyez, développés, hein, avec des membres antérieurs, postérieurs, des colorations, ils vivent généralement sur terre, mais pas tout le temps. On les voit aussi dans l'eau. Alors, la morphologie générale. Est-ce que vous pourriez me les décrire? Combien est-ce qu'ils ont de pattes? Vas-y, dis-nous.
4.
Et si c'était un insecte, il en aurait combien? Est-ce que tu sais ou pas?
6.
Parfait, 6. Ouais. Donc c'est pas un insecte, parce qu'il a pas 6 pattes. Est-ce que sur sa peau, vous voyez des poils?
Non.
Pas de poils. Donc on peut imaginer, après Jean-François il complétera, peut-être que tous les mammifères n'ont pas de poils, mais en tout cas, beaucoup ont des poils, et la particularité des mammifères, c'est que les petits allaitent. Allaitent, ça veut dire téter. Ça veut dire que les petits prennent le sein, on va dire, ou le lait de leur maman, pour en récupérer... Voilà, pour se nourrir. Ils n'ont pas de poils, donc ce ne sont pas des mammifères, ce ne sont pas des oiseaux, ils n'ont pas de plumes. Est-ce que ce sont des reptiles? Je suis en train de vous parler des grandes familles d'animaux qui existent. Les reptiles, ils ont quoi sur leur peau? T'as déjà vu? T'as pas trouvé dans les bois des fois une peau de reptile qui restait par là où peut-être ton papa il t'a montré ça ou à la télé? Non? C'est fait de quoi la peau de reptile? Le lézard par exemple. Alors c'est comme le poisson. Ouais, oui, c'est une peau dure, elle est faite d'écailles, d'accord. Donc la peau des amphibiens, c'est pas du tout un lézard. Il a pas d'écailles, d'accord, comme les poissons. Voilà, ou comme les reptiles aussi. Alors vous avez remarqué, ils ont quatre pattes, ce sont des tétrapodes, on dit. Vous comptez combien de doigts sur les pattes avant, les enfants?
Trois.
Regarde, il y en a une qui se cache un petit peu.
Quatre, oui, quatre.
Un, deux, trois, quatre. Et vous, on en a combien?
Cinq.
Cinq en haut et combien en bas?
Cinq.
Et lui, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Donc cinq en haut et quatre en bas. Et ça, ce sont tous les amphibiens. Hein, si vous trouvez un animal qui a cinq doigts sur les pattes arrière et quatre sur les pattes avant, c'est un amphibien. Alors, il y a deux grands groupes d'amphibiens. Et ça définit deux mots qui sont deux mots scientifiques, que ça s'appelle les almours. Et almours, ça veut justement dire les amphibiens sans queue. Et les autres, ce sont les urodèles, en fait. Et tiens, je vais te poser une question. Est-ce que la femelle du crapaud, c'est la grenouille? Non, ce sont comme les chiens et les chats, c'est pareil. Hein. Y a un papa grenouille et une maman grenouille, on va dire, où il y a une femelle grenouille et un mâle grenouille, et c'est pareil chez les crapauds. Il y a un papa crapaud et une maman crapaud, et ils s'accouplent entre eux. Il n'y a pas une grenouille qui va s'accoupler hein, avec un crapaud, comme tu verras jamais des chiens avec des chats. D'accord? Donc, ce sont deux espèces différentes. Donc ils ont une pupille ovale, horizontale, alors que les crapauds, vous voyez ces formes un peu particulières, quand on s'approche d'eux, quand on les capture, on regarde la forme de la pupille. Elle peut être horizontale ou verticale, en forme de cœur, en forme de goutte d'eau inversée. Horizontale, ouais, en forme de champignon, avec un petit trait en bas. Comment on reconnaît les grenouilles aussi à leur ponte? Chaque point noir représente un petit embryon, un petit étard en fait, qui est dans une gangue et qui est protégé, hein, gélatineuse un petit peu. Et les grenouilles, elles font des œufs en amas. Tu as une idée de combien d'œufs il peut y avoir là-dedans? C'est des chiffres... Non. Des milliers. Alors des fois c'est en surface et des fois c'est accroché aux végétaux en profondeur. Si vous trouvez ça, vous savez que sur votre site, il y a de la grenouille. Après laquelle, on verra. Et les crapauds, leur ponte, elle est complètement différente. Et là, c'est en chapelet, en fait. C'est des cordons de deux ou trois œufs qui se suivent. Et donc, des fois, ça peut être accroché au sol. C'est des petites quantités pour les petits crapauds, comme le pélodite ponctué. Et pour la lite accoucheur, c'est une particularité, c'est le papa qui garde les œufs. Vous voyez, la maman, elle a pondu ses œufs, en fait. Et le papa, pour être sûr que les tétards vont bien éclore, il se les garde sur ses pattes et il les transporte tout le temps jusqu'au moment où ça commence à bouger derrière lui et il sent que les tétards ont envie de sortir de leur œuf. Nos grenouilles, elles chantent, elles ont des sacs vocaux, elles ont une police avec des replis latéraux dorsaux bien marqués, et nos crapauds, ils chantent, mais alors c'est... surtout le crapaud commun, il chante pas... Quand il chante?
Oui.
Il fait des bruits rigolos? On les entendra tout à l'heure. Et nos crapauds, ils se reconnaissent facilement parce qu'ils ont des glandes sur le dos, en fait. On appelle ça des glandes paratoïdes ou parotoïdes. Et c'est ce qui leur sert à sécréter un mucus qui font qu'ils ont toujours la peau humide, ou alors pour se défendre contre les prédateurs. Contre le héron, par exemple, ils sécrètent cette espèce de mucus qui est désagréable quand on le mange. Ou le serpent, ouais. Ouais. Les couleuvres. Les couleuvres vipérines, elles aiment beaucoup manger les amphibiens. Il y a des nids de couleuvres vipérines qui se régalent de grenouilles. Alors, combien est-ce qu'on a d'anours? Donc les anours, vous avez compris, c'est tout ce qui est crapaud et grenouille. On en a 9 chez nous. Potentiellement 9, on va dire, et à surveiller, peut-être, il y en a eu des sonneurs à ventre jaune, il y en a eu il y a quelques centaines d'années. Peut-être qu'il y reviendra, il faut la surveiller. On a du crapaud accoucheur, du crapaud commun, du crapaud calamite, de la rainette méridionale, c'est celle qui se colle au carreau et qui a des petites ventouses, la grenouille agile, la grenouille rousse. On l'a mis, potentiellement, elle est sur d'autres départements limitrophes. J'ai appelé ça complexe des grenouilles vertes parce qu'en fait, les grenouilles vertes, c'est très difficile. Il y a 4-5 espèces qui s'hybrident entre elles et qui sont très difficiles à reconnaître. Le pélodite ponctué et le pélobate pultripède. À la fin, ce sont les plus, on va dire, les trois derniers, ce sont les plus rares, on va dire, les plus remarquables sur le territoire. Crapaud taureau. Moi, j'en ai sur le département, pas vu encore. Dans le Lot, il y en a question. Voilà, ça arrive. Ce sont des énormes crapauds qui arrivent à gober jusqu'à des hérissons. Donc, quand ça arrivera par chez nous, ça fera de sacrés dégâts.
Chères auditrices et chers auditeurs, découvrons cette semaine l'opération Fréquence Grenouille ou la nécessité de préserver les zones humides, et plus particulièrement les grenouilles.
Notre premier crapaud, c'est l'alite accoucheur. Ah ben, je vais mettre le son. Regardez, on va commencer par le son. Écoutez bien, ça vous l'entendrez, je pense que les parents aussi, ils doivent connaître. Est-ce que c'est...
Ah oui, ça c'est le bruit du...
Déjà c'est le bruit de lui. Ça s'appelle la litte accoucheur, mais c'est le bruit de quelqu'un d'autre, tu as raison. Il y a un rapace nocturne qui fait ce bruit-là.
Le hibou ?
Ouais. Non, pas le hibou. Si, le hibou... petit duc. C'est le petit duc, quoi, qui fait ça. Ouais. Mais comme on les entend pas à la même période, il y en a un qui chante à une période et l'autre qui chante là, actuellement. C'est un chant flûté, comme ça. Donc ça, c'est notre alite. C'est un petit crapaud. Lui, c'est le crapaud accoucheur, je crois que ça s'appelle, j'ai pas mis. Alite accoucheur ou crapaud accoucheur. Alors, tu sais comment il fait ? Il cherche un petit point d'eau, par exemple un lavoir, où l'eau est proche de la surface. Il se retourne, il se recule, il trempe ses fesses dans l'eau et il attend. Mais un à un, en fait, ou deux à deux, les petits têtards vont aller se mettre sur le mur et aller au fond de l'eau. Et puis là, chacun fera sa vie. Lui, le papa, va repartir et les têtards sont laissés dans l'eau et vont se développer et grandir. Donc c'est un petit, vous voyez, 3,5 cm, il fait... On l'entend entre fin mars et août, sa période de reproduction. C'est pas comme les grenouilles, il y a 3000 œufs, c'est entre 150 et 300 œufs qui sont déposés. Il peut avoir plusieurs pontes, il s'accouple avec une femelle, mais il peut récupérer la ponte d'autres femelles aussi. Il peut avoir 2-3 pontes. Voilà, comment on le reconnaît ? Au champ, souvent. C'est très discret en fait, quand on essaie de le trouver, on en approche à 2-3 mètres, il se tait. La pupille, il a une pupille dorée, verticale en fait. Des yeux assez saillants, c'est vrai. Et puis il a une ligne en fait de points orangés sur le dos, mais en période de reproduction. Les murs en pierre sèche. S'il y a des murs en pierre sèche, il apprécie énormément. Pour connaître le crapaud commun des autres, il faut regarder la forme de ces petits bourrelets qu'il a là derrière. C'est le seul qui a un iris rouge orangé comme ça. Il est beaucoup plus grand que notre petit crapaud, entre 9 et 11 cm. Et des pontes, ce sont des longs chapelets en fait qu'il laisse et qu'il enroule autour de la végétation entre 3000 et 8000 œufs. Et donc la femelle est beaucoup plus grosse que le mâle. Je sais plus qui me parlait de taille en fait entre les grenouilles et les crapauds. Chez les amphibiens, souvent la maman ou la femelle est beaucoup plus grosse que le mâle. Pour l'anecdote, il chante pas, mais par contre quand on met le pied dessus, il couine un peu comme ça, comme on l'entend. C'est pas un chant, il a pas besoin. En fait, les mâles ils sont tellement nombreux. Ça doit être le sexe ratio, c'est le nombre de mâles qu'il y a pour une femelle en fait. Et je crois que ça doit être 10 pour 1 en général. Donc ils sont très nombreux, ils n'ont pas besoin de chanter. Les femelles, elles trouvent toujours un mâle pour s'accoupler. C'est pas le plus beau des chants. Le crapaud calamite, celui-là, il est un peu plus original, un peu plus discret aussi, sur les milieux secs et chauds, il faut que ça soit aussi suffisamment sableux. Et avec une végétation partielle. Donc il est intermédiaire entre le crapaud accoucheur et le crapaud commun. Il est un peu plus petit, hein, 7 à 8 cm. Je vais lancer le chant de suite. Il faut bien en tenir, peut-être qu'on entendra après en mars. Hein. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, est-ce que vous savez qui chante ? Est-ce que c'est le mâle ou la femelle qui chante ?
C'est le mâle.
C'est le mâle, et ça lui sert à quoi de chanter ? D'après toi.
D'appeler la maman ?
Ouais, exactement. Ça s'appelle un chant nuptial, il l'utilise pour attirer la femelle. Alors, pour se positionner aussi par rapport à ses congénères, mais surtout pour attirer les femelles. Donc, le plus joli chant, le plus beau chant, attirera la femelle du site. Le crapaud calamite. Alors, la différence par rapport au crapaud commun principal, c'est sa couleur. Et encore, quand on parle de couleur, c'est difficile. Quand les amphibiens sortent d'hibernation, ils ont des couleurs très ternes, en fait, qui vont prendre toute leur teinte au moment de la reproduction, au pic de reproduction. Et sinon, le moyen de le reconnaître, mais il a une ligne médio-dorsale qui est jaune. Et quand vous êtes en voiture, que vous voyez sur une route quelque chose traverser, si vous voyez sauter, bien souvent, c'est des grenouilles qui sautent, ou ça peut être peut-être un crapaud. Il a l'habitude, quand une voiture s'approche, de se gonfler, de faire vraiment... d'essayer d'impressionner un petit peu. Il se campe sur ses pattes. Alors que le crapaud calamite, ce qu'il fait, lui, dès qu'il y a un bruit, c'est qu'il court. C'est le seul crapaud, pour le reconnaître, sur une route qui court. Si vous voyez courir, c'est du crapaud calamite.
Depuis le début de l'émission, l'animateur nous décrit les caractéristiques de toutes les grenouilles que l'on peut rencontrer dans nos zones humides et je vous propose de continuer à découvrir encore d'autres races de grenouilles que nous côtoyons souvent sans les voir.
Après, entre mâles et femelles, disons que si vous pouvez vous approcher suffisamment près pour les reconnaître, il suffit de regarder sur les doigts avant, ils ont des taches noires, qui sont des callosités qui apparaissent au moment de la reproduction.
On est sur un route et qu'elle saute sur la voiture.
Qu'elle saute sous la voiture. Et des fois, ça arrive, tu vois. Même si on veut l'éviter, ton papa, il sait où sont les roues, par exemple. Il dit qu'il pense que la voiture, elle va passer d'un côté et de l'autre. Et la grenouille, bien souvent, quand elle est sous le capot, elle saute. Et quand elle saute, ben souvent, elle se fait assommer et c'est fini pour elle. Donc, il vaut mieux, si on peut, essayer de ralentir. Si on ne va pas trop vite, on ralentit, puis on passe de l'autre côté. Faut pas qu'il y ait de voiture derrière, faut pas que ça cause un accident non plus. Mais tu sais, pour les protéger, c'est bien d'en parler, en fait, parce que une des menaces importantes pour les amphibiens, c'est les routes, en fait. Et il y a des actions de protection qui sont mises en place. Il y en a de deux types, comme des buses, qui sont placées vraiment sur des sites de migration où énormément, 1000, 2000, 3000 crapauds veulent traverser pour rejoindre un point d'eau. Ils dorment dans une forêt, ils ont besoin d'aller dans ce point d'eau pour retrouver les femelles et pondre. Et pour traverser, on leur fait des trous sous la route. Ça, c'est une possibilité. Et une autre, c'est de leur mettre une bâche d'un côté de la route pour les coincer et faire des trous où on met des seaux dedans. Et ils vont se mettre dans ces seaux et tomber dans ces seaux. Et des gens de bonne volonté vont venir les récupérer le soir ou le matin, ces seaux remplis de crapauds ou de grenouilles, pour aller les mettre de l'autre côté de la route et qu'ils ne se fassent pas écraser. Et quand la reproduction est finie, qu'ils ont fini de pondre leurs œufs, qu'ils veulent repasser de l'autre côté, on met une bâche de l'autre côté, on creuse un petit trou, on met des seaux et on les fait passer de l'autre côté. Le pélodite ponctier ou grenouille persillée. Alors, c'est une espèce assez rare. Je vous mets le champ. Elle a été inventoriée sur le site l'année dernière. J'espère qu'on aura l'occasion de la voir parce qu'elle est vraiment originale. On a l'impression que c'est des boules qui s'entrechoquent. Teintement de boules de pétanque, ça m'est un petit peu vrai. Persillée de vert, en fait. Elle a les yeux bien saillants. Des pattes longues comme une grenouille, en fait. On est entre la grenouille et le crapaud. C'est une famille intermédiaire des pélodictylées. Petite comme le crapaud. Il ne faut pas imaginer. C'est vrai que quand on tombe dessus, on se dit c'est un juvénile, c'est un petit jeune. Mais non, c'est taille adulte, entre 3 et 4 cm. Et leurs pontes, ce sont des pontes accrochés à de la végétation qui sont petites, quoi, réparties sur un végétal sur une dizaine de centimètres des petits œufs. Paquet de 10 à 100 œufs. Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder sur la grenouille verte, elle est très difficile. Les gens la confondent de temps en temps parce que, comme elle a souvent une ligne verte sur le dos, ils la confondent avec le crapaud calamite. Mais bon, elle a des taches régulières sur le dos, elle ne court pas, elle saute. Elle a beaucoup moins de pustules sur le dos. Voilà, elle fait entre 9 et 11 cm, donc le crapaud calamite, il est un peu plus petit quand même, entre 7 et 8 cm.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors, il y en a une qu'on appelle la grenouille rieuse, on a l'impression que voilà, elle se moque de nous et puis elle fait un peu de bruit sous la fenêtre pour nous empêcher de dormir le soir. Il y a des gens qui dérangent. Donc alors elle pond jusqu'à 10 000 œufs bruns et on les voit pas si souvent que ça en fait parce qu'ils sont attachés à la végétation et souvent au fond. Voilà. Grenouilles rousses, on les trouve souvent dans les zones forestières. Elles ont, pour les reconnaître, grenouilles rousses et puis grenouilles agiles, elles ont ce bandeau noir sur les yeux un peu. Elles font ce bruit-là. C'est assez sourd, ouais, un grondement sourd en basse fréquence. Très difficile de les attraper, celles-là. Grenouilles rousses, grenouilles agiles, même grenouilles vertes aussi. Elles sautent rapidement. Notre grenouille agile. Elle ressemble beaucoup en fait à la grenouille rousse, si ce n'est le. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, c'est la taille du tympan qui permet de différencier en fait par rapport à la grenouille rousse. Au niveau de la coloration, c'est à peu près la même, elle est un peu plus petite. Et au niveau du son, la forme du museau est différente aussi, museau long et pointu. On en trouve souvent dans les mares forestières. Enfin, la rainette verte dont je vous ai parlé tout à l'heure, on l'a pas sur notre territoire, et celle qu'on a sur notre territoire, c'est celle qui a un bandeau noir qui s'arrête sur les membres antérieurs en fait. Rainette méridionale, elle s'appelle. Et l'autre, rainette verte ou arboricole.
Et je remercie l'un des animateurs du réseau des conservatoires d'espaces naturels pour toutes ses explications sur l'opération Fréquence Grenouille et la nécessité de protéger les zones humides et ses petits habitants.
Agriculteur, agriculteur.
C'était l'émission Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Sur Bram FM, tous les mercredis à 9h30, les vendredis à 14h et bien sûr en podcast sur bramfm.com. À bientôt.